Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé un trésor. J'ai le grand plaisir et l'immense privilège aujourd'hui de recevoir le professeur Nicolas Leroy. Nicolas Leroy est professeur des universités en histoire du droit, ces thématiques de recherche qui portent initialement sur les sources du droit au Moyen-Âge se sont ouvertes sur la question des relations entre religion et droit à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ce qui l'amène à travailler sur la laïcité. Il co-dirige ainsi le diplôme universitaire Laïcité et médiation à l'université. Sa thèse de doctorat portait sur le pouvoir et droit à Avignon, thèse soutenue en 2005 à Paris, sous la direction d'Albert Rigottière. Il m'a fait le grand honneur de m'en offrir un exemplaire. Nicolas Leroy est historien et juriste, en plus d'être un grand érudit reconnu par ses pairs. Il est un grand humaniste et un enseignant remarquable. Il a des responsabilités importantes à Unim. J'en profite ici pour le remercier, car il a toujours été d'une très, très grande bienveillance à mon égard durant le temps où j'enseignais à Unim. Nous allons évoquer aujourd'hui la formation des chirurgiens et médecins au Moyen-Âge. Ces sujets sur le Moyen-Âge me tiennent à cœur car je suis médecin, mais aussi parce que j'ai été, sur titre et travaux, admis à m'inscrire en école doctorale à l'Université d'Aix-Marseille pour travailler sur une thèse en histoire médiévale ayant pour titre « Expression de la douleur dans l'espace français du XIIe au XIVe siècle ». Mon travail a pu recueillir, en les divisant 89 dossiers, presque 1000 enluminures, 963 exactement, sur le sujet. Elles sont datées et localisées. Ce qui semble unique d'après les spécialistes, malheureusement, je n'ai pas pu rédiger ma thèse, mais je crois savoir comment, en ces temps-là, on vivait la douleur. Eh bien justement, en parlant de ces temps, comment peut-on définir le Moyen-Âge et ses différentes périodes qui ont duré presque 1000 ans avant de parler des médecins Nicolas Leroy?
Bonjour et merci pour votre invitation. Le Moyen-Âge, c'est une période immense qui est discutable du point de vue historique, bien sûr, parce qu'elle s'étend de, théoriquement, la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, qui déjà en soi est une date qu'on pourrait discuter, jusqu'à une date qui là aussi est discutée. Est-ce que c'est 1453, la chute de Constantinople devant les Turcs? Est-ce que c'est 1492, la découverte de l'Amérique par les Espagnols et Christophe Colomb? Est-ce que c'est un peu plus tôt, dans les années 1450, la découverte de l'imprimerie? Bon, bref, il y a à peu près 1000 ans couverts par cette période. Alors, 1000 ans, c'est beaucoup trop long, hein, bien sûr.
Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les chirurgiens, les médecins et leur formation. D'après ce que je sais, en Europe du 5e au 11e siècle, la pratique chirurgicale est une pratique empirique. La médecine est exercée par les clercs qui connaissent le latin, alors que la chirurgie est plus le fait des barbiers habitués aux instruments tranchants. Le cautère est utilisé, le renouveau chirurgical commence dans le sud de l'Europe. La première école chirurgicale européenne fut créée au IXe siècle. Il s'ensuivra l'ouverture d'une seconde école chirurgicale à Bologne au XIIe siècle. Le traitement des plaies s'effectue par le sec et non plus par le vin. On utilise une certaine forme d'antiseptique et l'éponge soporifique. C'est de cette université qui issut Guy de Chauliac, auteur de la Grande Chirurgie, Chirurgica Magna, en 1368. C'est le premier ouvrage chirurgical en français. Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, l'enseignement de la médecine, il va reprendre au sud de l'Europe. On retient généralement comme ville Salerne, hein, qui est la ville où l'enseignement médical, vraisemblablement, débute dès le 11e siècle, donc très tôt, peut-être un petit peu même avant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui part de là. Alors, Salerne, pourquoi? Parce que c'est le sud de l'Italie et Salerne est en contact, du coup, avec le monde arabe. Le monde arabe qui a conservé, traduit bien sûr en arabe et complété le savoir grec qui était le savoir antique en matière médicale avec Hippocrate bien sûr, Galien surtout, et donc textes grecs qui ont été oublié, on va dire, hein, d'Occident, parce que le grec n'était pas parlé en Occident médiéval dans la première moitié, du Moyen-Âge, hein, entre le 5e et le 11e siècle, ou très très peu, donc en tout cas insuffisamment pour avoir cette transmission de ces textes. Les Arabes, par contre, eux, vont le traduire très tôt, et bien c'est par Salerne que la traduction en latin va se faire. De l'arabe vers le latin, il y a un personnage qui s'appelle Constantin, qui est le Constantin l'Africain, qui vraisemblablement est natif de l'ancienne Ifriqiya, donc de Tunisie actuelle, et qui est moine dans le sud de l'Italie, au Mont Cassin, et qui a été l'un des premiers traducteurs de ces textes médicaux arabes en latin, et qui a permis le développement de l'école de Salerne. Alors l'école de Salerne va se développer, et puis va attirer pas mal de monde, comme c'est toujours le cas dans les universités médiévales. Ces écoles attirent des gens qui viennent un peu partout, des clercs d'abord, mais de plus en plus ensuite des bourgeois, et qui vont repartir dans leur région et éventuellement fonder de nouvelles universités. Donc voilà, à Montpellier, dès les années 1130, fin des années 1130, on a une école informelle, si vous voulez, avant que l'université ne se mette en place
pour ceux qui connaissent Montpellier, une toute petite école, qui n'est pas loin d'ailleurs de la faculté de médecine, actuelle, mais qui est ancienne, puisqu'il y a une nouvelle faculté, dans le centre de Montpellier.
C'est ça.
On peut aller voir le premier bâtiment. Alors, nous pensons que c'est à Bologne que l'on fait renaître les dissections cadavériques. En fait, les dissections en existent depuis longtemps. Durant l'Antiquité, le corps humain était sacré dans toutes les civilisations. C'est-à-dire, sa dissection est en principe interdite, à l'exception des embryons qui peuvent être disséqués par des savants, notamment grecs, car les embryons sont soi-disant non venus à la vie. Les premières dissections semblent avoir été pratiquées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ auprès d'Alcaméon de Crotone. Ces dissections de corps humain sont effectuées sous la dynastie des Ptolémées. Au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, les Ptolémées confiaient des condamnés à mort aux médecins grecs Hérophile et Érasistrate, qui ont ainsi effectué plus de 600 vivisections, considérant les organes vivants et leur ensemble comme plus représentatifs du vivant. En fait, ils disséquaient des vivants pour voir comment ça fonctionnait. Mmh. Et on retrouve cette notion en médecine chinoise, en acupuncture, que j'ai étudié. Je pense qu'ils avaient raison, bien que ça soit éthiquement problématique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, sur je n'ai pas grand-chose à compléter sur ce que vous avez dit. Ensuite, sur la période médiévale, ça va. On a en effet une période de creux. Maintenant, pour revenir encore une fois à Salerne, on a conservé du XIe siècle un manuel de, enfin, un traité de dissection, mais sur les porcs. Hein. Donc, la pratique de la dissection pour arriver à comprendre le fonctionnement du corps. Et pratiquée sur des animaux. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus tard qu'on va retrouver des pratiques de dissection sur l'humain, et notamment à Bologne. Alors, dès le XIIe siècle, en fait, on pratique des autopsies et on ouvre le corps dans le cadre d'autopsies. Autopsie juridique, ouais. Et donc là, c'est l'occasion, bien sûr, pour les chirurgiens, de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, les premiers traités de dissection vont venir un petit peu plus tard, au début du XIVe siècle. Hein, il y a Mondino de Liuzzi, qui est un Florentin, qui enseigne à Bologne, qui est le premier auteur d'un traité sur la dissection.
Alors, au niveau intellectuel, c'est quand même très intéressant. Pour nous, c'est évident, mais c'est quand même très intéressant de comparer des animaux à de l'humain. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas évident que l'humain fonctionne comme les animaux, non, et inversement. Donc, c'est déjà quand même un progrès.
Alors, juste pour compléter, hein, la dissection... ce qu'il faut bien comprendre sur le fait que la dissection ne soit pas pratiquée, ce n'est pas qu'elle est interdite, en fait. La médecine n'a pas interdit spécialement la dissection. Alors, il y a un problème lié au sang, mais on en reparlera quand on parlera des chirurgiens, puisque c'est quelque chose qui va séparer les médecins et les chirurgiens. Mais par contre, il n'y a pas d'interdiction ou d'interdiction suffisamment forte et appliquée pour que ça soit la raison de l'absence de dissection. À cette époque, la dissection, si elle n'est pas pratiquée, c'est surtout parce qu'on n'en voit pas vraiment l'intérêt. Ouais. On est sur une démarche, mais on va en rediscuter en parlant de la formation. Les universités au Moyen-Âge, c'est les universités qui appliquent la scolastique. La scolastique, ouais. Donc, on étudie à travers les anciens qui savaient. Et en fait, la dissection, on ne voit pas trop l'intérêt parce que La dissection, elle va venir simplement, et quand on va la pratiquer, ça va simplement être là pour confirmer ce que savaient déjà les anciens. On n'est pas dans une logique de progrès et de recherche pour arriver à mieux comprendre.
On vient simplement confirmer
ce qui était déjà su.
Alors, pour revenir à la dissection, qui constitue un enseignement important et qui possède un fort support émotionnel et symbolique, nous pouvons constater que les idées fausses, comme vous l'avez souligné, sur la dissection au Moyen-Âge, ont la vie dure. D'après les historiens, je suis d'accord avec eux, l'Église n'aurait en réalité jamais interdit la dissection du corps humain. Ça ne veut pas dire pour autant que cette pratique n'était pas entourée d'interdits. Les violations de sépulture, par exemple, ou les vols de cadavres étaient sévèrement sanctionnées par la loi. Ainsi, un procès fut intenté à Bologne en 1319 contre 4 médecins qui avaient subtilisé un corps fraîchement inhumé pour l'ouvrir au domicile de leur professeur. Le pape Benoît VIII s'est élevé contre certaines pratiques en 1299, démembrer un cadavre et en faire bouillir les morceaux pour en détacher les os de la chair était puni d'excommunication. Mais c'est ce que l'on réalisait pour obtenir les reliques, en fait. Cette mesure ne visait pas les médecins qui posaient les bases de l'anatomie. Elle sanctionnait une coutume très répandue à l'époque. L'usage consistait à dépecer et démembrer la dépouille du défunt, soit pour en faciliter le transport, soit pour en répartir les restes dans différents lieux de sépulture. Les anatomistes du Moyen-Âge disséquaient principalement des animaux. Le porc était souvent choisi du fait de sa ressemblance avec l'homme, que l'on retrouve évidemment actuellement, notamment pour certaines prothèses. L'anatomia de Mondino de Liduzzi constitue le premier témoignage explicite de la pratique de la dissection à Bologne dans les dernières années du XIIIe siècle. J'ai retrouvé une enluminure du nord de la France à Lille datée de 1460. Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452. Il avait donc, lors de la facture de cette enluminure, que 8 ans. D'une dissection faite par un chirurgien, observée certainement et commentée par un médecin. Mes derniers travaux révèlent qu'à la fin du Moyen-Âge, Léonard de Vinci, qui est à présent un mythe, n'avait pas vraiment disséqué, et cela pour trois raisons que l'on peut avancer. Dans la science anatomique, que j'ai longuement étudiée et pratiquée, son nom n'est jamais évoqué. Il n'a jamais rien publié de son vivant, à la différence de Vésale, qui a publié son De Humina Corporis Fabrica en 1543, et qui est considéré comme le novateur de l'anatomie moderne. Les dessins de Léonard de Vinci sur la paille urinaire de l'homme ne montrent pas de prostate. Il n'a donc pas disséqué. La prostate est inexistante chez des bœufs castrés. Il dessine donc un bœuf castré à la manière d'un homme. Il dessine des canaux imaginaires qui, dans toutes les paléomédecines, réunissaient la moelle épinière à l'appareil génital et n'existent bien évidemment pas sur le cadavre. Pour disséquer, il faut savoir ce qu'on va trouver en ouvrant un cadavre et faire de petites découvertes à mesure. Léonard de Vinci ne connaissait pas le latin, n'a pas disséqué. Il a dessiné des dissections que d'autres faisaient, ce qui ne l'empêche pas d'être un génie. Ses dessins apportent deux innovations fondamentales. La précision physiologique de ses observations de dissection dans différents plans, couplée à une vérification expérimentale de ses dessins magnifiques. Michel-Ange, je lui ai assisté à des dissections. À l'âge de 17 ans, il a été hébergé au couvent de Santa Maria del Santo Spirito à Florence, où il a pu faire des études anatomiques et assister à des dissections sur les corps de défunts en provenance de l'hôpital du couvent. Pour remercier le supérieur, il a sculpté un crucifix avec un Christ juvénile et nu, en bois et étoupe durcie, qui a été placé sur le maître-autel et qui nous apprend beaucoup sur ce génie. Il faut absolument le voir. Pour vous, Nicolas Leroy, comment ont été perçues ces pratiques médicales et l'art du médecin et du chirurgien ?
Alors, c'est une vaste question. La pratique médicale, que ce soit d'ailleurs la pratique médicale ou chirurgicale, elles sont plutôt bien perçues à cette époque, même par l'Église, on aurait pu penser que l'Église aurait pu être un petit peu gênée par l'idée d'une science qui venait concurrencer les qualités des saints qui pouvaient soigner ou qui pouvaient guérir, tout au moins des saints guérisseurs. Les médecins sont assez bien vus, ils sont présents dans les cours, dans les cours des puissants, des rois, on a des chirurgiens, des rois, des papes ou même des grands seigneurs. Donc clairement, dans les élites, c'est quelque chose qui est bien perçu. Ensuite, au niveau du peuple, C'est peut-être un peu différent parce que justement, accéder à un médecin, c'est compliqué, c'est très cher. Accéder à un chirurgien, c'est la même chose. Et donc, eux ont plutôt tendance à faire appel à une médecine traditionnelle, populaire. Quoi.
Je vous fais remarquer que c'est ce que beaucoup de nos concitoyens
retrouvent
actuellement.
De plus en plus le cas.
Accéder à un médecin traitant, c'est excessivement difficile. Et un spécialiste, il faut attendre plusieurs mois.
Ça amène à faire appel par moment à des charlatans.
Je vous propose une petite pause musicale avec La Bourrée des Cerfs. Musique médiévale, Frédéric Laurent. Nicolas Leroy, qui pouvait étudier la médecine ou la chirurgie, fallait-il appartenir à une certaine classe sociale ? Dans quel établissement s'est déroulée ces études ? Pouvez-vous aussi nous parler de l'importance du latin ?
Alors, pour commencer par la fin de votre question, l'importance du latin est centrale, hein, puisque les études se font en latin. Le latin, c'est la langue de la science au Moyen-Âge, hein, c'est la langue du savoir au Moyen-Âge, donc évidemment la maîtrise du latin est absolument indispensable. D'ailleurs, le latin, ça va venir distinguer les différents types de personnel qui interviennent dans le corps médical, en fait, entre le sommet, c'est-à-dire les médecins universitaires, et puis tout en bas, les barbiers ou les rebouteux, les charlatans, etc., qui, bien sûr, eux, n'ont pas accès au latin, donc n'ont pas accès au savoir médical. Les livres sont en latin, donc l'enseignement est en latin, donc évidemment, le latin est absolument indispensable. Alors, accéder aux études, évidemment, ça aussi, c'est compliqué parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour aller dans les lieux d'études. Il n'y a pas beaucoup d'universités. Hein, jusqu'au XIVe siècle, les universités, elles sont rares. En France, les universités médicales, au XIIIe siècle, il y en a trois. Montpellier, Toulouse, Paris, c'est tout. Donc, il faut déjà se déplacer, il faut se loger, et puis il faut payer, puisque la plupart du temps, les enseignants, il faut les rémunérer, donc il faut les payer, il faut que les étudiants paient et il faut acheter les livres. Donc, de fait, c'est réservé quand même à une élite financière. Alors, c'est des clercs à la base. Et puis, de plus en plus souvent, ça va être des bourgeois. Les catégories enrichies des villes qui vont pouvoir envoyer leurs rejetons dans les universités parce que derrière, il y a une possibilité de forte rémunération. C'est valable pour la médecine, c'est valable pour le droit. Hein. Bien évidemment, on a exactement le même schéma, quoi.
Alors, pouvez-vous nous dire comment se déroulent les études de médecine, la chirurgie et qui les payait ?
Alors, médecine d'un côté, chirurgie de l'autre, parce que c'est deux types d'études différentes. Ça va être un des apports, encore une fois, de l'école de Salerne. C'est d'arriver à imposer la médecine comme un art, comme une discipline intellectuelle et non pas une discipline mécanique. Et ça va permettre à la médecine de s'imposer comme un des arts majeurs au même titre que la théologie, le droit canonique et le droit civil, le droit romain, ce qui la place dans les études les plus prestigieuses de l'époque. Alors pour accéder à ces études, il faut suivre un cursus qui est très long, puisqu'il faut d'abord passer par les facultés d'arts libéraux. C'est une espèce de propédeutique, mais qui dure quand même 6-7 ans, dans laquelle on apprend la grammaire, l'art d'argumenter, on va dire ça comme ça, et puis les matières scientifiques, mathématiques, astronomie, etc. Et une fois qu'on a fini cette faculté des arts libéraux, qu'on est maître S-art, on va pouvoir accéder aux études supérieures, d'une certaine manière, hein, donc aux arts majeurs, donc soit le droit canonique, soit la théologie, soit la médecine. Et donc, ça fait des études quand même qui durent une dizaine d'années, quoi qu'il en soit, voire un petit peu plus pour ceux qui veulent aller jusqu'au doctorat, en médecine, et pour devenir essentiellement enseignant ensuite à l'université. Donc, ce sont des études très longues. Et donc, ça renvoie un petit peu plus à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'était très cher, bien sûr. Pour les chirurgiens, la chirurgie, c'est un art qui est considéré comme mécanique, pour le coup. Donc là, on ne passe pas par les arts libéraux. Donc, c'est une formation qui se fait plutôt en contact avec des gens qui ont une expérience. Maintenant, on a certaines facultés qui acceptent la présence des chirurgiens. C'est le cas de Bologne, mais par contre, en France, à Paris, notamment, les chirurgiens ne sont pas acceptés.
Comment se déroulaient les examens? Quels étaient les diplômes qu'on donnait aux médecins et aux barbiers?
Alors, les examens, ils vont, bon, il y en a plusieurs, hein, puisqu'il y a la maîtrise S-lettres. Ensuite, il y a le médecin licencié, puis il y a le doctorat éventuellement. Donc, évidemment, on est évalué par les pairs. Alors, le contrôle sur les universités, il est passé de l'Église à un contrôle un petit peu plus autonome, on va dire. Hein. Dans les premiers universités, c'est vraiment l'Église qui contrôle les universités. Puis ensuite, ça va davantage être les villes qui veillent à ce qu'il y ait une qualité, bien sûr, de l'enseignement. Bon, c'est les maîtres hein, qui évaluent les étudiants pour leur faire passer les différents examens. Alors, sur le contenu des examens, je ne pourrais pas vous dire précisément comment ça se passe, mais... Mais ça va varier sans doute d'une université à une autre déjà. En droit, je sais que bon, il y a des examens qui sont assez exigeants pour les étudiants pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Donc il y a une volonté d'arriver à un niveau qui est assez élevé. Hein.
Alors à Montpellier où j'étais impétrant, revêtu de pourpre, on est habillé de pourpre, mes maîtres eux étaient en noir. Nous prêtions serment depuis la Révolution française dans une république dite laïque, non plus en évoquant la Vierge et Saint-Luc ou Saint-Côme et Saint-Damien, qui étaient médecins, ce que l'on peut très bien comprendre, mais curieusement, nous prêtons serment sur la divinité républicaine, l'être suprême et l'effigie d'Hippocrate. L'être suprême est un culte religieux et civique organisé en France au début des années 1790, et notamment à l'occasion de fête en 1794, c'est un décret du 18 Florial en deux. Il aurait été nourri par le grand architecte de l'univers soutenu par la franc-maçonnerie de l'époque. Il existait donc une sacralisation indispensable du diplôme de médecin donnant le droit de professer la médecine. Qu'en était-il des serments des chirurgiens et des médecins lors du passage de leur diplôme au Moyen-Âge ?
Alors, sur les chirurgiens, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, il y a une structuration qui se met en place à partir du XIIIe siècle, où on a une confrérie qui se met en place à Paris, notamment créée par le chirurgien du roi, la confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien, qui va faire un petit peu ce que feront les corporations de plus en plus souvent à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire veiller à la qualité de l'enseignement qui est donné, faire des examens qui permettent d'accéder au statut de maître. Hein, et donc là, pour le coup, les chirurgiens, ceux qui réussissent, vont pouvoir accéder à toute la pratique chirurgicale, et ceux qui ratent n'auront accédé qu'à une chirurgie mineure. Donc là, on est placé sous le patronage d'un certain nombre de saints, donc il y a certainement un serment, je n'ai pas trouvé de trace, mais il y a certainement un serment qui est prêté à ce niveau-là. Le serment, c'est quelque chose qui est très très répandu au Moyen-Âge. Hein. On prête serment sur les reliques ou sur un livre, bon, la Bible, mais c'est quelque chose qui est profondément pratiqué. Après, sur les médecins, je pourrais, le serment d'Hippocrate, évidemment, on le voit venir, mais au Moyen-Âge, ça me paraît assez douteux. Le serment, il est fait devant Dieu, hein, ouais, avant tout. Donc, on a laïcisé ça à la Révolution. Mais bon, le serment, il existait certainement sous une autre forme avant. Je ne pourrais pas vous dire exactement quand est-ce qu'il se met en place.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, parce que je suis intéressé par les confréries. Alors, les confréries, leur intégration et leur appartenance restent avec des rituels secrets. Mais est-ce que vous avez des documents sur ce que pouvaient être justement ces initiations et ces passages dans les confréries?
Alors, y a, sur la confrérie dont j'ai parlé à l'instant, la confrérie parisienne là, de Saint-Côme et Saint-Damien, elle est assez bien connue. Ensuite, dans les différentes villes, on a quelques traces des confréries. Après, sur le fonctionnement interne précis des confréries sur le XIIIe, XIVe siècle, il n'y a quand même pas grand-chose. Hein.
Voilà, c'est secret, et ça n'a pas été écrit.
Alors, c'est secret, puis il nous manque des sources, en fait, hein, parce que les gens ne l'écrivent pas forcément, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de l'écrire. Donc, ça reste assez limité. Maintenant, ce qu'on voit, c'est surtout que ces confréries, elles fonctionnent comme des corporations de métiers. On va les retrouver chez les chirurgiens, chez les barbiers, mais chez les médecins, ça marche. Enfin, il n'y a pas ce genre de choses. Les médecins, ils sont... déjà en très petit nombre, hein, donc les confréries, elles existent dans une ville. Vous l'avez dit tout à l'heure déjà sur les médecins de Nîmes, mais des médecins dans les villes, ils sont extrêmement peu nombreux
à
cette époque-là.
Oui, à Nîmes, à l'époque que je vous parle, ils étaient 3-4.
Ouais.
Eh bien, il nous reste à vous remercier infiniment, monsieur le professeur Nicolas Leroy, et à vous souhaiter le meilleur pour vos recherches, votre enseignement et tous vos étudiants. Encore merci à vous.
Je vous remercie.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, des ouvrages et articles publiés par le professeur Nicolas Leroy, bien évidemment. Comme un livre, Nicolas Leroy, une ville et son droit, affiné au début du XIIe siècle, en 1251, de Brocard, 2008, Romanité et modernité du droit. Nicolas Leroy, pouvoir et droit d'Avignon, début du XIIe, 1251, c'est en 2005. Comme article récent, article de 2023, la liberté de conscience dans les cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Nîmes, dans la revue d'histoire de Nîmes et du Gard, numéro 38, à la page 89 et 97. En 2002, le suicide en droit médiéval, la condamnation de l'homicide contre soi-même, avec M. Viala, Velfort et Joly, le suicide en antiquité au XIXe siècle, c'est à Bordeaux, LEH édition, page 611-616. En 2021, la lutte contre les épidémies dans les villes mairies d'Yonnax au Moyen-Âge, toujours avec M. Viala, Villefort et Schmagonoff, je m'excuse pour la prononciation, Andromont, qui est directeur Les pouvoirs publics face aux épidémies de l'Antiquité au XXIe siècle à Bordeaux, LH, édition page 49-58, et acteur en 2021, acteur, structure et rhétorique dans les statuts municipaux de la France méridionale, dans DL, direction, statut, écriture et pratique sociale dans les sociétés de l'Italie communale et du Midi de la France, 12e-14e siècle, Rome, publication de l'École française de Rome en 2021, page 117-134, qui est disponible en ligne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.